Ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tours. Il est 7h15, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. On espère que votre été s'est bien passé. De notre côté, qui dit rentrée, dit nouveaux étudiants et étudiantes. On leur souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission en ce vendredi 19 septembre. Dans l'actualité de cette émission, après la manifestation du mercredi 10 septembre, hier, de nouvelles manifestations se sont tenues avec notamment un moment convivial le midi, l'occasion aussi de mêler la lutte et la fête. Le week-end dernier se tenait la fête de l'UMA, un grand moment de fête populaire avec de la musique, des débats, de la convivialité, mais aussi des tensions. Une hausse des agressions sexuelles en France avec peu de poursuites. Le Conseil d'Europe tire l'alarme. On vous en dit plus dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est l'heure du Flash Info présenté par Mathis Maudet.
Des kinés, des enseignants et des commerçants en grève. Hier, plus d'un million de personnes ont manifesté dans les rues d'après les chiffres de la CGT. Au total, plus de 250 manifestations et rassemblements ont eu lieu partout en France pour répondre à l'appel des syndicats qui protestent contre la politique budgétaire du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur dénombre moitié moins de participants, autour des 450 000 manifestants en France, dans la capitale, à Marseille ou encore à Tours. Au total, plus de 140 interpellations ont été recensées, alors qu'un journaliste de France Télévisions a été blessé en marge des heurts entre policiers et manifestants à Lyon. La maire de Paris, Anne Hidalgo, au cœur d'une polémique. Mardi, sur le réseau social X, l'association Transparence Citoyenne, qui revendique lutter contre la corruption, s'est félicitée d'avoir récupéré en partie les notes de frais de déplacement, de restauration et de représentation de l'élu entre 2020 et 2024. Dévoilés dans un article de Mediapart, ces documents font état de plusieurs achats de vestes et manteaux à plusieurs milliers d'euros. Une polémique qui s'ajoute à celle du voyage à Tahiti en octobre 2023 pour aller visiter le site olympique accueillant l'épreuve de surf à Teupo. Les États-Unis s'opposent à un cessez-le-feu à Gaza. Hier, Washington a de nouveau opposé son veto à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant un cessez-le-feu et un accès humanitaire à Gaza. Ce texte, soutenu par 14 membres sur 15, était porté par la majorité du Conseil, déterminé à poursuivre ses efforts malgré les blocages répétés des États-Unis. Il demandait la levée des restrictions à l'aide humanitaire, l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages. À quelques jours de l'Assemblée générale de l'ONU et de la COP30 au Brésil, les pays européens affichent un compromis à minima. Jeudi 18 septembre, à Bruxelles, les 27 se sont mis d'accord sur une fourchette de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035, une baisse comprise entre moins 66,25% et moins 72,5% par rapport à 1990, en attendant un accord plus précis dans les semaines ou les mois à venir. Double championne olympique en titre, l'équipe de France de volley est éliminée des mondiaux. Alors qu'ils devaient absolument battre l'Argentine pour leur dernier match de groupe, les Bleus se sont inclinés 3-7 à 2. Le parcours de l'équipe de France au mondial s'achève ici, deux jours seulement après une première défaite face à la Finlande, celle-là même qui a déclenché le scénario catastrophe de ce jeudi. La génération d'Erwin N'Gapet, auréolée de deux titres olympiques, d'un sacre européen et de quatre victoires en Ligue mondiale, ne connaîtra jamais le titre de championne du monde.
C'était le Flash Info présenté par Mathis Maudet. Il est 7h20. Vous écoutez bien Good Morning Tour sur Radio Campus. Le Conseil de l'Europe tire la sonnette d'alarme pour la France. Une hausse des agressions sexuelles, mais peu de poursuites. C'est ce qu'il dénonce dans son dernier rapport, Clara Baudard.
Et oui, d'après France Info, le Grévio, rassemblant des experts chargés de surveiller la lutte contre les violences faites aux femmes, a rendu son rapport ce mardi. Dans ce dernier, l'organe du Conseil de l'Europe invite la France à prendre des mesures urgentes. Le motif, son faible taux de poursuites pour violences sexuelles en France. 83% des affaires d'agression sexuelle sont classées sans suite et 94% quand il s'agit d'un viol. Autre point souligné par l'organisme, les victimes sont de plus en plus jeunes. Selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, plus de la moitié des victimes ayant été agressées ou violées en 2022 et 2023 étaient des mineurs. Des actes commis par des agresseurs également de plus en plus jeunes, en cause une adhésion de plus en plus forte au discours masculiniste diffusé sur les réseaux sociaux. Même si le Grévio salue les initiatives tout de même mises en place par le gouvernement depuis le Grenelle de 2019, on pense notamment aux maisons d'accueil ou à plus d'éducation sur le sujet, les associations féministes, elles, doivent aujourd'hui faire face à de nouveaux défis pour continuer leurs activités. En août dernier, dans son étude, la Maison des Femmes, qui accueille et apporte un soutien juridique aux victimes, a tiré la sonnette d'alarme. Pour plus de 70% des structures féministes accompagnant les femmes, leur économie est à bout de souffle. En cause, les coupures budgétaires de la loi de finances 2025. Pour vivre, ces associations comptent énormément sur les subventions et les dons. Et avec le budget de cette année, elles redoutent de nouvelles réductions dans le secteur.
Sur le sujet et pas que, les syndicats lancent aussi l'alerte. Dans une tribune, Marie-Lise Léon et Sophie Binet dénoncent des économies qui mettent encore une fois les femmes en première ligne. C'était un procès à l'écotonitruant et un verdict tout aussi attendu. Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, est à l'origine d'une crise diplomatique entre le Brésil et les États-Unis.
C'est une condamnation historique. Un verdict contesté qui divise le Brésil et qui a fait réagir partout à travers le globe. Jair Bolsonaro, au pouvoir entre 2019 et 2023, a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État à l'issue d'un procès hors norme. Par 4 voix contre 1, la Cour suprême brésilienne a reconnu l'ex-président d'extrême droite d'avoir été, je cite, « le chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien au pouvoir à la suite de sa défaite contre l'actuel président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, lors des dernières élections présidentielles de 2022 ».
Une décision qui fait réagir au Brésil et même au-delà.
Oui, en effet, c'est également le cas aux États-Unis où Donald Trump, allié proche de l'ex-président de 70 ans, n'a pas hésité à comparer cette affaire au procès dont il avait été l'objet avant le début de son deuxième mandat. Cela ressemble un peu à ce qu'ils ont essayé de faire avec moi, accusait-il devant la presse le 12 septembre dernier, jour où la Cour suprême a tranché du sort de l'ex-président du Brésil. Pour rappel, Donald Trump avait lui-même eu affaire avec la justice américaine pour son rôle dans l'assaut du Capitole par ses partisans, niant lui aussi à bloc sa défaite aux élections présidentielles de 2020. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dénoncé sur le réseau social X une persécution politique et a accusé les membres de la Cour suprême brésilienne d'avoir injustement condamné l'ex-président tout en annonçant, je cite, « son intention de répondre en conséquence à cette chasse aux sorcières ». Dans une tribune publiée dans le New York Times, le président Lula s'est dit « fier de la Cour suprême du Brésil pour sa condamnation historique » et a répondu à l'administration américaine en démentant toute chasse aux sorcières.
Des tensions entre Washington et Brasilia qui avaient vu le jour avant même la fin du procès, n'est-ce pas ?
Effectivement, en juillet dernier, le président américain avait déjà commencé par imposer des droits de douane de 50% sur les produits brésiliens, en guise de représailles contre la puissance sud-américaine. Une mesure qu'avait qualifié le ministre des Affaires étrangères brésilien Mauro Vieira d'inacceptable ingérence dans la souveraineté nationale, à l'issue d'un entretien avec son homologue américain Marco Rubio. Déjà à l'époque, Donald Trump écrivait sur son réseau Truth Social « Ce n'est ni plus ni moins qu'une attaque contre un opposant politique et je parle en connaissance de cause », faisant référence à ses déboires judiciaires passés. Le président Lula avait répondu dans un communiqué que, je cite, « la défense de la démocratie au Brésil est un sujet qui revient aux Brésiliens. Personne n'est au-dessus de la loi, en particulier ceux qui attentent à la liberté et à l'état de droit. »
Il est 7h25, on va marquer une petite pause musicale avec le titre Tony Micheli de l'artiste qui est actuellement en concert dans toute la France, Ben Mazuet.
C'était il y a longtemps, c'était il y a tellement longtemps. Je me souciais déjà de ce que pensaient les gens de moi. Et tu sais pourtant, on m'avait plein de fois dit qu'on s'en fout de leur avis. J'avais bien compris mais j'ai pas réussi. Quand j'étais petit c'était le bon temps, enfin pas tant le bon temps. Je me souviens très bien de mélancolie dévastant mon présent. Les dimanches après-midi de...
Quand j'étais petit, je me souviens pas m'être ennuyé autant depuis. Quand j'étais petit, c'était la musique tellement belle, de gens que je découvrais, et tout un monde alors s'ouvrait, c'était complètement incroyable. Les Beatles, v'là la tornade, Bruno Cabrel ou Goldman, ils ont fait chavirer mon âme. Quand j'étais petit, j'étais heureux, sans amoureuse, sans alcool, sans zénith, sans pactole, mais pas sans amis, ni sans idole.
Non, pas sans idole.
Un footeur, un chanteur, un CM2, une professeure, une copine de ma grande sœur, j'étais fervent admirateur. Quand j'étais petit, j'ai tant aimé les grands. Quand j'étais petit, j'ai tant aimé les grands. Je rêvais d'être Tony Mitchell, d'être Tony Mitchell, dans Madame et Servi. Je rêvais d'être André Agassi, d'être André Agassi, de gagner à Bercy. Je rêvais vraiment, j'y croyais, je m'y voyais, je passais des heures dans leur peau. Je rêvais vraiment, je m'y voyais, je voyageais juste avec mon cerveau. Quand j'étais petit, j'avais la chance de pas connaître encore l'amour. Ça viendra pendant l'adolescence, dans ma vie ça changera tout. J'ai quand même eu quelques histoires, quand j'étais petit, quelques histoires, avec des personnages notoires qui sortiront jamais de ma mémoire. Petit crush sur Tam des 4 size, comme j'étais heureux à l'époque. Je pouvais tranquille sans que ça sache, imaginez que c'était réciproque. Je pouvais tranquille sans que ça sache, aller la chercher en moto. Dans mes rêves on allait au resto, mais je la ramenais assez tôt. Je rêvais d'être Tony Mitchell, d'être Tony Mitchell, dans Madame et Servi. Je rêvais d'être André Agassi, d'être André Agassi, de gagner à Bercy. Je rêvais vraiment, j'y croyais, je m'y voyais, je passais des heures dans leur peau. Je rêvais vraiment, je m'y voyais, je voyageais juste avec mon cerveau.
Vous venez d'écouter Tony Micheli, un morceau de Ben Mazué. Il est 7h28 et vous êtes sur Radio Campus pour la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours. À Tours, justement, les solutions d'hébergement d'urgence se réduisent pour les familles à la rue. Le collectif Pas d'enfants à la rue a pris une décision forte cette semaine, Charline Reiss.
Oui, depuis ce mardi 17 septembre, le collectif Tourangeau Pas d'enfants à la rue ne prend plus en charge les nuits d'hôtel pour les familles laissées sans solution par le 115. Le 115, c'est le numéro d'urgence pour les personnes sans abri qui leur permet d'obtenir un hébergement pour la nuit. Mais le service est saturé, les demandes sont trop nombreuses et beaucoup restent sans solution. Jusqu'ici, le collectif Pas d'enfants à la rue finançait des chambres d'hôtel pour 20 à 40 enfants et adultes chaque soir. Un moment de répit rendu possible grâce aux dons, environ 30 000 euros récoltés en un an. Mais l'organisme a décidé de mettre fin à son action.
Qu'est-ce qui a motivé ce revirement de la part du collectif ?
L'association justifie d'abord une situation économique difficile. Le nombre de familles sans solution de la part du 115 continue d'augmenter, alors que les moyens financiers du collectif sont limités. Mais c'est aussi un geste politique. Le collectif accuse les pouvoirs publics de s'être reposés sur son action. On fait le travail du 115, disent-ils. Selon eux, leur action invisibilise le problème. Si les familles trouvent un toit par ce biais, l'État n'est pas mis face à ses responsabilités. Alors le collectif change de stratégie. Il veut redonner une visibilité aux familles à la rue et peser sur le débat public. Mais ce choix divise. Certains saluent une décision courageuse, d'autres estiment qu'elle se fait au détriment de familles désormais sans endroit où dormir. Cependant, le collectif assure ne pas abandonner ces familles. L'organisme avait déjà dû interrompre son aide cet été, faute de moyens, avant de reprendre son action mi-août. Elle se concentre désormais sur les mobilisations, telles que des rassemblements devant les écoles pour les enfants scolarisés et sans domicile fixe.
La préfecture et la mairie de Tours assurent de leur côté maintenir l'accueil de 90 personnes au stade de la Vallée du Cher jusqu'en mars 2026. Ce dimanche 14 septembre, le Tour d'Espagne a été interrompu à 56 km de l'arrivée en raison du blocage des rues par des manifestants pro-palestiniens. Quelques 100 000 personnes dénonçaient la participation de l'équipe israélienne à Première Tech à cette 80e édition de la Vuelta. Rachel Giraudot.
L'Espagne sauve l'honneur de l'Europe, c'est ce qu'a affirmé le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, suite aux manifestations pro-palestiniennes qui ont mis fin au Tour d'Espagne. À peine arrivés à Madrid pour la 21e étape, les 153 coureurs de la Vuelta ont été reçus par une marée de drapeaux palestiniens. Les manifestants se sont imposés sur le parcours à plusieurs reprises, forçant le peloton à s'arrêter une première fois avant que l'organisation ne décide de mettre un terme définitif à la course.
Une situation qui ne plaît visiblement pas au gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Tout à fait, cette fin frustrée de la Vuelta, mais aussi les prises de parole du dirigeant socialiste, qui se dit admiratif de l'action des manifestants, semblent accroître les tensions entre l'Espagne et Israël. Le ministre israélien des Affaires étrangères a tweeté ce lundi que Pedro Sanchez avait, je cite, « encouragé les manifestants à descendre dans la rue avant de le qualifier d'antisémite ». Malgré ces dénonciations, Pedro Sanchez ne faiblit pas dans son soutien à Gaza. Il défend l'exclusion des équipes israéliennes de compétitions sportives internationales et affirme que l'écho des manifestations à Madrid doit se propager aux quatre coins du monde. Si les tensions diplomatiques entre Israël et l'Espagne sont anciennes, elles se sont aggravées ces dernières semaines, menant jusqu'au rappel de l'ambassadrice espagnole lundi 8 septembre.
Mais alors comment expliquer ce soutien des Espagnols à la cause palestinienne ?
Eh bien, cela s'explique par ses liens historiques avec la zone. Sous la dictature de Franco, le pays, très isolé sur la scène internationale, s'était tourné vers les pays arabes. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, la société civile espagnole a multiplié les manifestations de soutien à la Palestine. Selon un sondage du Real Instituto Elcano, paru en juillet 2025, 82% des Espagnols qualifient de génocide les actions d'Israël à Gaza, tandis que 78% seraient favorables à ce que les États européens reconnaissent dès à présent l'État palestinien. Une reconnaissance que l'Espagne a accordée à la Palestine dès le mois de mai 2024, aux côtés de l'Irlande et la Norvège.
La France, de son côté, reconnaîtra la Palestine comme un État indépendant ce lundi, comme l'a annoncé Emmanuel Macron le 24 juillet dernier. On parle parfois d'une maladie de senior. Chaque année, 2300 jeunes âgés de 15 à 25 ans sont pourtant diagnostiqués d'un cancer. Douleurs, traitements, fatigue, isolement. Pour les étudiants malades, la souffrance est conséquente. Des aménagements peuvent être accordés par les universités, mais ils sont loin d'être automatiques. Et au milieu de cette jungle administrative, pas simple pour un vingtenaire atteint d'un cancer de faire connaître sa situation. Pour tenter d'aider ces jeunes dans cette épreuve, Clément, 23 ans, a créé une association. Si cet accompagnement lui tient tant à cœur, c'est que l'étudiant a lui-même été malade durant sa scolarité. Ce jeune, Jules Frécon, l'a rencontré cet été. Il en a tiré un feuilleton de 4 épisodes dans lequel Clément racontera son parcours, de la découverte de son cancer jusqu'à la création de son association. Aujourd'hui, premier épisode, le diagnostic.
Donc chronologiquement, on va raconter plutôt l'histoire dans son entièreté, parce que l'histoire est plutôt drôle. Ma mère me montre au début de l'été, elle me montre une vidéo d'un jeune qui est malheureusement mort, et qui avait un lymphome très avancé, au point où il avait un trou dans le poumon. Il avait un bandage autour, il devait le nettoyer plusieurs fois par jour. Horrible, situation horrible. Et donc ce type, en fait, il était dans une démarche de résilience, où il disait, malgré ma maladie, voilà, j'essaie de vivre à fond, je sais que c'est bientôt fini, mais je suis pas en colère contre la vie. Et ma mère me montre ça en me disant, bah, regarde Clément, regarde ce jeune qui profite de la vie, toi aussi profite de la tienne, un peu comme font les parents.
Un peu par hasard.
Oui, message inspirationnel. Ouais. 10 jours après, je commence à avoir mal à l'endroit auquel le type avait son trou. Okay. Là, tout le monde me dit, mais non, mais Clément, c'est psychosomatique, qu'est-ce que tu fais Ma mère a analysé, elle dit, oui, vraiment, on a vu cette vidéo, t'as mal au même endroit, c'est bizarre. Moi, je me dis, bon, oui, peut-être. Le temps avance, je suis de plus en plus fatigué, et j'entends un petit sifflement dans mon poumon que je suis seul à entendre. Je vais voir plusieurs médecins généralistes, ils me disent, non, mais écoutez, on n'entend rien, votre souffle a l'air bon, votre sang est bon.
Donc,
je fais les prises de sang, oui, j'ai fait la totale. Donc, okay. Je me fais une raison, je me dis très bien. Et je finis quand même par obtenir une radio de complaisance, comme quoi parfois c'est utile. J'ai forcé suffisamment pour obtenir une radio auprès d'un généraliste. Je fais la dite radio. Et là, c'est le moment un peu d'habitude quand on fait une radio, les types balancent à la volée dans le couloir, ouais, c'est cassé ou c'est pas cassé, ouais. Vous avez été prêts. Ils me disent, oui, vous voulez pas venir avec nous dans le bureau et tout, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Est-ce que vous êtes accompagné? Là, on se dit tout de suite, on glisse sous roche. Donc là, ils me disent, oui, tu as une masse de la taille globalement d'un gros pamplemousse comme ça dans le poumon. Il faut t'opérer dès demain. Donc là, on est le 27 août 2021, très précisément. C'est vrai qu'à l'instant T, en fait, le train vous passe dessus, vous n'avez pas vraiment conscience que c'est à vous que ça arrive et que c'est pas aux autres.
des propos recueillis par Jules Frécon. La semaine prochaine, deuxième épisode, affronter les études pendant la maladie. Il est 7h36, on se retrouve juste après une petite pause musicale avec le titre See the Sun par The Cooks.
Oh, you can have it all and wrap it in the world. You can have everything. You can have love and lots of other things to make you think. But when it all comes down to you, girl, yeah, no matter what you do, take a look at yourself and realize I've been good to you. I've been good to you.
D'écouter le titre The See the Sun par The Cooks. Il est 7h38. Tout de suite, les informations par Mathis Maudet.
Des kinés, des enseignants et des commerçants en grève. Hier, plus d'un million de personnes ont manifesté dans les rues, d'après des chiffres de la CGT. Au total, plus de 250 manifestations et rassemblements ont eu lieu partout en France pour répondre à l'appel des syndicats qui protestent contre la politique budgétaire du gouvernement. Le ministère de l'Intérieur dénombre moitié moins de participants, autour des 450 000 manifestants en France, dans la capitale, à Marseille ou encore à Tours. Au total, plus de 140 interpellations ont été recensées, alors qu'un journaliste de France Télévisions a été blessé en marge des heurts entre policiers et manifestants à Lyon. La maire de Paris, Anne Hidalgo, au cœur d'une polémique. Mardi, sur le réseau social X, l'association Transparence Citoyenne, qui revendique lutter contre la corruption, s'est s'est félicité d'avoir récupéré en partie les notes de frais de déplacement, de restauration et de représentation de l'élu entre 2020 et 2024. Dévoilés dans un article de Mediapart, ces documents font état de plusieurs achats de vestes et manteaux à plusieurs milliers d'euros. Une polémique qui s'ajoute à celle du voyage à Tahiti en octobre 2023 pour aller visiter le site olympique accueillant l'épreuve de surf à Tehupo. Les États-Unis s'opposent à un cessez-le-feu à Gaza. Hier, Washington a de nouveau opposé son veto à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu et à un accès humanitaire à Gaza. Ce texte, soutenu par 15 membres sur 14, était porté par la majorité du Conseil, déterminé à poursuivre ses efforts malgré les blocages répétés des États-Unis. Il demandait la levée des restrictions à l'aide humanitaire, l'instauration d'un, je cite, cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages. À quelques jours de l'Assemblée générale de l'ONU et de la COP30 au Brésil, les pays européens affichent un compromis à minima. Hier, à Bruxelles, les 27 se sont mis d'accord sur une fourchette de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035, une baisse comprise entre 66 et 72% par rapport à 1990, en attendant un accord plus précis dans les semaines ou les mois à venir. Doute bleu championne olympique en titre, l'équipe de France de volley est éliminée des mondiaux. Alors qu'ils devaient absolument battre l'Argentine pour leur dernier match de groupe, les Bleus se sont inclinés 3-7 à 2 hier. Le parcours de l'équipe de France au mondial s'achève ici, deux jours seulement après une première défaite face à la Finlande, celle-là même qui a déclenché le scénario catastrophe de ce jeudi. La génération d'Erwin Engapet, auréolée de 2 titres olympiques, d'un sacre européen et de 4 victoires en Ligue mondiale, ne connaîtra jamais le titre de championne du monde.
Toujours sur le 99.5 FM, vous écoutez la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus Tours. Dimanche dernier s'est tenue à Los Angeles la 77e édition des Emmy Awards qui récompense chaque année le meilleur de la télévision américaine et notamment des séries. Une édition marquée par la noirceur des œuvres en tête d'affiche, Agathe Sado.
Grande gagnante de la cérémonie, Adolescence triomphe et obtient 6 récompenses dans les catégories principales. À travers 4 plans-séquences d'une heure environ, la mini-série plonge au cœur d'une famille bouleversée par l'arrestation de leur fils de 13 ans, Jamie, accusé du meurtre d'une de ses camarades. La série dépeint la réalité brutale et complexe d'adolescents écrasés par les réseaux sociaux entre harcèlement en ligne et discours masculinistes. Encensé par la critique, le drame Netflix a permis à Owen Cooper, interprète du personnage de Jamie, de devenir à 15 ans le plus jeune lauréat d'un Emmy Awards. Grosse surprise dans la catégorie des séries dramatiques. Severance, qui partait favorite avec 27 nominations pour sa 2e saison, ne repart finalement qu'avec 6 statuettes. L'équipe peut remercier Tramell Tillman et Britt Lower, qui décrochent 2 trophées en catégorie principale, meilleur acteur et actrice pour un second rôle. Entre thriller et dystopie, la série évoque le sentiment d'aliénation et de déshumanisation dans le travail, dans un univers où les employés d'une multinationale oublient tout de leur vie à l'extérieur dès leur entrée au bureau. C'est finalement The Pitt qui rafle 3 statuettes dans la catégorie, dont la très attendue meilleure série dramatique. Noah Wyle, couronné meilleur acteur, y incarne un médecin en chef dans un service d'urgence sous pression. En 15 épisodes, la série retrace une unique garde particulièrement intense. En slalomant entre les patients, The Pitt traverse aussi les sujets qui animent la société américaine, l'avortement ou les tueries de masse, et dénonce un système de santé à bout de souffle.
Et si on veut regarder une série un peu plus légère ?
Pour une série plus légère, The Studio, bien sûr, qui remporte les 3 mastodontes dans la catégorie comédie, meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleure série. Co-créateur et acteur principal de la série, Seth Rogen est propulsé dans The Studio en nouveau directeur d'un studio de cinéma en déclin, écrasé entre égo de ses auteurs, rentabilité et volonté artistique. Derrière son humour cinglant, la série dévoile une critique acerbe du modèle actuel de production de cinéma et de ses limites. On connaissait la passion d'Hollywood pour les films qui parlent de cinéma. On sait maintenant qu'il n'a pas non plus peur de l'autodérision. La série repart avec 13 trophées et devient la plus récompensée dans la catégorie comédie aux Emmys pour une première saison.
Et quel bilan pour cette cérémonie ?
Jeunesse désorientée face à la violence sur les réseaux sociaux, drame médical sur un système de santé en plein effondrement ou satire d'un Hollywood qui broie ses auteurs pour en faire des machines à sous. Si le cinéma est un miroir du monde, cette année s'est montrée particulièrement sombre.
Et cette année, toutes ces séries sont déjà disponibles en streaming en France. Après la manifestation hier à Tours, divers syndicats et militants se sont réunis. Vers midi, à la place Anatole France, pour partager un moment convivial. L'occasion de mêler la lutte à la fête. Lucie Feuillolet s'est rendue sur place.
Barbecue, stand de crêpes et concert au rythme rock'n'roll du groupe Politics Lover, l'ambiance est chaleureuse à Tours ce jeudi 18 septembre. Un côté festif clairement revendiqué par Laetitia Vidal, cheminote et membre active de la CGT des cheminots de Touraine.
À la CGT, en fait, on revendique, mais pour la construction, on a toujours des propositions, mais on veut que ce soit quand même festif, on n'est pas là pour casser le pays, en fait. On est là pour construire ensemble une société qu'on a envie, en fait.
Et quoi de mieux qu'un bon repas pour se réunir dans la bonne humeur? En effet, selon Louis, membre de la cantine militante La Louche Finale, l'alimentation serait une véritable arme politique.
Ouais, clairement, il y a une place de l'alimentation dans les luttes. Sur le fait de manger ensemble, en fait, manger, partager un repas, c'est aussi ce qui fait rester les gens, ce qui les fait discuter entre eux, ce qui fait que la manifestation, une fois qu'elle est finie, bah, il peut y avoir une suite. Et donc, c'est vraiment l'idée de la cantine, en tout cas, que la nourriture en manif, ça sert à la fois à se remplir le ventre, à rester plus longtemps et à avoir quelque chose de convivial, quoi.
Des moments festifs nécessaires, donc, assure également Mathieu Cornillot, venu manifester avec ses amis.
Oui, ça rend la lutte beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus inclusive, je pense. Moi, je suis allé ravitailler au stand de saucisses de la CGT. Et puis, ça peut inciter même plus certaines personnes qui peuvent être des fois un peu réticentes quand il y a des débordements.
Fête et lutte serait donc compatible, assure Mathieu Cornillot et Laetitia Vidal, qui rappellent leurs revendications.
Enfin, la nomination de Le Cornu juste après la chute de Bayrou vraiment est une preuve qu'en fait Emmanuel Macron est totalement sourd au discours du peuple et à ses revendications. Et vraiment, enfin, on est là pour demander une vraie alternance, quoi, un vrai changement.
Bah, Macron continue en tant que président à faire la même politique quoi qu'il arrive. Il ne prend pas en considération ce qui se passe dans le pays actuellement, en fait. Mais c'est surtout de montrer à la population qu'on est là, en fait, et aussi qu'il y ait un rapport de force qui se fait et qu'on soit enfin entendu. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est la construction du pays, ce n'est pas la déconstruction. À l'heure actuelle, plus ça va, plus la qualité de vie au travail est difficile. Le budget aussi par famille est difficile, puisque c'est de plus en plus compliqué. Et nous, on aimerait que ça change, en fait, et qu'on ne soit pas sur une politique de peur comme il le fait actuellement, en fait.
Au total, 8000 personnes selon les syndicats et 5000 selon les autorités ont répondu présents pour la manifestation partie de la place de la Liberté. 3 personnes auraient d'ailleurs été interpellées à Tours, indique ICI Touraine. La semaine dernière a signé la fin d'une commission d'enquête parlementaire surmédiatisée. Et cette occasion, un long rapport liste ses conclusions et ses pistes pour réguler les contenus malveillants auxquels les jeunes sont facilement exposés sur TikTok. Décryptage d'Andrés Godefroy.
Marquée par près de 180 auditions, l'instance parlementaire présidée par le député socialiste Arthur Delaporte a rendu son verdict choc il y a quelques jours. En 2023 déjà, une première proposition de loi sur les influenceurs a connu un succès étonnant auprès des députés qui l'ont votée à l'unanimité. A titre d'exemple, c'est depuis son entrée en vigueur que les collaborations commerciales sont mises en avant par les créateurs sur leur poste. Ce nouveau rapport donc, de 324 pages, retrace les différentes recommandations visant à répondre aux effets psychologiques d'un algorithme pouvant accentuer des, je cite, « vulnérabilités psychiques ». Le texte a été vivement soutenu par ses 30 membres.
Mais quelle réponse concrète à ces divers poussant parfois les jeunes au pire?
Dénonçant un océan de contenu néfaste et une mise en avant de la violence sous toutes ses formes, la commission d'enquête parlementaire propose 3 mesures phares. Une politique de décroissance digitale à l'école, interdire l'accès à TikTok aux jeunes de moins de 15 ans et instaurer un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Ces pistes restent des propositions et leur éventuelle application nécessite un vote positif de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour autant, si le constat est partagé par tous les membres, certaines dispositions restent sujets à débat, comme l'idée d'une mise en place d'un délit de négligence numérique. Arthur Delaporte a souligné d'ailleurs chez Quotidien que les parents sont autant victimes des écrans que leurs enfants. Si les suites de ce rapport restent inconnues, il aura sans conteste eu un écho fort auprès des parents, des médias et de l'ensemble de la société civile. À son annonce, cette proposition majeure a relancé de vifs débats autour de la liberté d'expression, de la responsabilité des parents donc, et des plateformes elles-mêmes, en l'occurrence TikTok. Les moyens de vérification de l'âge des jeunes utilisateurs font aussi face aux limites juridiques et techniques des systèmes d'identification européens. En réponse à ces prérogatives lourdes, TikTok rejette catégoriquement la présentation jugée trompeuse du rapport. Le réseau social insiste également sur ses politiques de sécurité et outils de modération déjà existants pour protéger les mineurs. Pour l'heure, TikTok a été banni des appareils de fonctionnaires d'État français et de ceux des différentes institutions de l'Union européenne. Une telle décision viendrait à faire de la France le premier pays de l'Union européenne à restreindre l'application.
À l'international, Donald Trump vient d'ailleurs d'annoncer être proche d'un accord avec la Chine pour la cession de TikTok à une société américaine. Une affaire à suivre à toutes les échelles et qui risque d'évoluer dans les semaines à venir. En attendant la suite de cette émission, une petite pause musicale avec l'incontournable morceau Big Boss Lady de l'artiste Théodora.
Ok, boss lady, je suis dans la vie ce samedi. J'avais les contours, j'dis dire, je devais guider.
Ok, maintenant, cheat, même si tu veux, j'y sip. Baby, on peut juste sleep, même si t'avales, je skip.
Freaking ass égal, c'est moi la boss booty. Fuck, big glass, hot tweet, so far.
Crois pas, négro, get the baby, no. Tu seras jamais la seule carte, comment tu crieras ou non.
Ha, ha, ha. J'ai trop de bijoux sur mon cou, maman des visages. Elle veut que je t'aille, je chante, tu t'y que je fasse le visage. Elle aime pas mes cuissards, gobano. On croit top Rihanna, c'est trop long, donc elle aime pas mon tissage.
Ok, boss lady, je suis dans les vues du samedi. J'avais les gros touches, j'dis dire, je vais guilder.
Ok, maintenant cheat, même si tu veux, je sip. Baby, on peut juste sleep, même si t'avales, je skip.
Ok, boss lady, je suis dans les vues du samedi. J'avais les gros touches, j'dis dire, je vais guilder.
Ok, maintenant cheat, même si tu veux, je sip. Baby, on peut juste sleep, même si t'avales, je skip.
Je suis une boss lady, pretty, pretty bitch. J'ai pas de nan, que de number 10. Mais moi, j'ai aucun mal à te 10, à te 10. Fresh et bonne comme une miss, comme une miss.
Bitch, who, bitch, who, bitch, who that? Un café au riz, mais qu'on sait pas pour that. Big tune, big body, boom, boom, fat. Big tune, big body, boom, boom, fat.
J'ai bougé mon café, j'ai des témoins. J'fais de la magie comme au Bénin. Septième ciel, un, comme un martien. On s'en fume, baby, jusqu'à Pékin.
Ok, boss lady, j'suis dans les vues du samedi. J'avais les gros touches, j'dis dire, je vais guilder.
Ok, maintenant, cheat, même si tu veux, je sip. Baby, on peut juste sleep, même si t'avales, je skip.
Ok, boss lady, je suis dans les vues du samedi. J'avais les gros touches, j'dis dire, je vais guilder.
Ok, maintenant, cheat, même si tu veux, je sip. Baby, on peut juste sleep, même si t'avales, je skip.
C'était le morceau Big Boss Lady de Théodora. Vous écoutez toujours Good Morning Tour, il est 7h53. Le week-end dernier, la base 217 en Essonne a vibré au rythme de la fête de l'humanité. 610 000 personnes se sont rassemblées pour cette 90e édition. Une grande fête populaire, ancrée à gauche et à l'extrême gauche. 3 jours de musique, de débats, de convivialité, mais aussi de tensions, Ludivine Meyer.
Eh oui, Angelina, la fête de l'UMA, ce n'est pas un simple festival. C'est une scène multiple, musicale, militante, intellectuelle. Et sur cette scène, le ton a parfois dérapé. Le plus marquant, la présence du militant écologiste Paul Watson. Le fondateur de l'ONG Sea Shepherd était invité pour un débat sur l'immigration qui a été perturbé par des militants se réclamant de l'écologie antiraciste. Ils ont scandé « Paul Watson n'est pas un camarade » ou encore « Notre écologie est antiraciste ». Ils reprochent à Paul Watson certaines déclarations sur l'immigration et les femmes. L'annonce de la venue du militant écologiste avait déjà déclenché une vague d'indignation. Plusieurs collectifs écologistes, parmi lesquels Youth for Climate Paris, avaient demandé sa déprogrammation, dénonçant l'invitation d'un écofasciste dans une publication Instagram.
Autre moment fort, l'accueil glacial réservé à Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste.
Effectivement, le premier secrétaire participait à un débat avec d'autres responsables de gauche. Marine Tondelier, la chef des écologistes, Stéphane Peu, le président des députés communistes, François Ruffin, l'ancien insoumis et le député LFI, Adrien Clouet. Dès son arrivée sur scène, Olivier Faure a été hué par le public. Le dirigeant socialiste a alors interrogé la foule : quelles sont les raisons qui vous poussent à me huer alors que je n'ai pas encore parlé ? Au cœur des tensions, selon Ouest France, l'attitude du PS, accusée notamment par LFI de vouloir se rapprocher de la majorité présidentielle et de trahir la gauche. La modératrice du débat a également dû intervenir pour appeler à respecter les orateurs. La scène politique s'est alors transformée en scène de concert. On applaudit ou on siffle avec la même intensité qu'un public face à des artistes. Et enfin, des tensions financières. Avant même la tenue de la fête, l'organisation avait dû faire face à un manque de trésorerie important cet été. Elle avait donc lancé une cagnotte intitulée « Urgence pour l'humanité » pour que la fête ait bien lieu. Cette levée de fonds a permis de récolter 1 million d'euros, mais révèle la fragilité économique du projet, le coût des artistes, de la billetterie, des infrastructures, des prestataires. Tout cela pèse lourd et interroge sur la durabilité de ce rendez-vous culturel unique.
Alors, que retenir de cet événement, Ludivine ?
Eh bien, que la fête de l'humanité reste un espace unique, un carrefour où se croisent musique et politique, convivialité et conflit. Et oui, ça chauffe parfois, mais c'est aussi ça la culture vivante, un lieu où l'on débat, où l'on s'oppose et où l'on célèbre.
Rendez-vous l'an prochain alors, si les conditions le permettent. On continue de parler culture avec Lucie Feuillolet qui va nous présenter l'agenda culturel du week-end au programme de multiples festivals en Touraine et les pas moins de 63 sites à découvrir à Tours à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Lucie, tu nous présentes les événements qui ont attiré ton attention.
Et oui, c'est samedi 20 et dimanche 21 septembre, musées, bâtiments historiques, expositions, visites commentées ou animées ouvrent grand leurs portes, souvent gratuitement et sans besoin de réservation. Parmi les nouveautés cette année, la découverte de la Grande Bretèche, un couvent habituellement fermé au public. Samedi, des visites sont proposées toute la journée et un concert de chant liturgique de 45 minutes par la chorale Cœur ouvert clôturera la journée dès 16h. Dans un tout autre registre, dans la matinée, le rendez-vous est donné à 10h au tribunal judiciaire de Tours où vous pourrez assister à une audience fictive du tribunal pour enfants en collaboration avec la Maison des droits de l'enfant de Touraine. Le procès fictif de l'année dernière avait d'ailleurs rencontré un vif succès, alors on vous conseille d'arriver un peu en avance.
Et ce n'est pas tout, de nombreux parcours sont également proposés.
Pour les amateurs d'art urbain, direction les Sanitas, où le collectif de graffeurs Blue Monday a transformé plusieurs immeubles du quartier en véritable œuvre d'art. Des fresques colorées et originales sont à découvrir. Le parcours se fait avec un guide conférencier Ville d'art et d'histoire et dure environ 1h30. Rendez-vous samedi et dimanche à 15h devant l'école Michelet.
Et pour les plus fêtards, côté festival, il y a aussi de quoi faire.
Festival à l'ambiance très électrique, l'été indien à Saint-Mars-la-Pile mêle concerts, musique du monde, groove, post-punk, latino-tropical et j'en passe. Des ateliers créatifs et des espaces food truck sont aussi prévus pour profiter de la journée en famille ou entre amis. De son côté, le festival Jazz en Touraine s'achève ce dimanche avec des concerts dans des lieux variés autour de Mont-Louis-sur-Loire. Les amateurs de jazz pourront découvrir des formations locales mais aussi des artistes internationaux dans une ambiance intimiste ou festive selon le lieu. Le Quartier Libre Festival fête d'ailleurs aussi son anniversaire ce 20 septembre. Au programme, spectacle, DJ set, concert, un rendez-vous festif donc pour tous les goûts, car ce sont pas moins de 9 artistes allant du jazz au reggae en passant par le hip-hop qui sont à découvrir au Beaumont. Enfin, pour les plus littéraires d'entre nous, à Tours de Bulle, le festival de bande dessinée se déroule les 20 et 21 septembre à Tours. En plus des rencontres avec les auteurs et des séances de dédicaces, des expositions et des ateliers pour enfants sont organisés. En bref, c'est une véritable immersion dans l'univers de la BD, du manga et de l'illustration contemporaine.
Voilà de quoi bien s'occuper votre week-end. Pour tous les détails, horaires, billets, lieux, rendez-vous sur les sites officiels et les offices de tourisme. Et nous, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une bonne escapade culturelle. Mercredi 10 septembre, un influenceur américain célèbre pour ses controverses et ses idées conservatrices a été assassiné d'une balle dans le cou. Le meurtre s'est déroulé lors d'un événement organisé par l'Université de la Vallée de l'Utah. Alia Trabelsi, vous avez dressé le portrait de cet homme.
En effet, Angelina, il s'appelait Charlie Kirk, avait 31 ans et demeurait l'un des plus grands soutiens de Donald Trump. Le but de son apparition publique ce jour-là était de recruter de nouveaux soutiens du président. Une campagne qu'il présentait sous le slogan de « Prove me wrong », autrement dit « Démontrez-moi que j'ai tort ». Et pour cause, l'exercice, il le connaissait sur le bout des doigts et le répétait sans arrêt. Pour ma part, quand j'ai entendu parler de lui pour la première fois, c'était à l'apparition de la vidéo « 25 étudiants libéraux peuvent-ils surpasser un étudiant conservateur ?» publiée le 8 septembre 2024 sur la chaîne YouTube Jubilé.
Et visiblement, elle vous a marqué.
Oui, alors je ne me suis pas enfilé la vidéo en entier pour préparer cette chronique, car j'avais pas envie de me donner la nausée, mais voici une sélection de propos prononcés par Charlie Kirk, rien que pour vous. Pour commencer, un enfant agressé sexuellement devrait aller au terme de sa grossesse suite à une agression sexuelle, car pour lui, l'avortement n'a aucune raison, et je dis bien aucune raison, d'être pratiqué. Ou encore que si le taux de criminalité a augmenté en Amérique, c'est à cause de l'abolition de l'esclavage. Il a aussi affirmé qu'il fallait accepter chaque année quelques morts par arme à feu, comme un prix à payer pour préserver le deuxième amendement. Une dernière citation qui, je vous l'accorde, Angelina, est un comble.
Une disparition tout en analogie. qui a affecté la sphère politique internationale depuis.
Effectivement, la disparition du grand copain de Trump a jeté de l'huile sur le feu dès le lendemain. Les eurodéputés d'extrême droite du Parlement européen ont demandé jeudi dernier qu'une minute de silence soit organisée. Et bien que refusée par la présidente du Parlement elle-même, l'extrême droite a tenté un coup de théâtre en essayant de l'imposer sans succès. La gauche de l'hémicycle s'était insurgée, quitte à hurler coûte que coûte, finalement rien de bien neuf au Parlement. Lors d'un discours tenu le même jour par Charlie Wemmers, un eurodéputé suédois du groupe des conservateurs, qu'on s'entende bien, le même que Marion Maréchal, ce dernier a comparé l'événement au meurtre de George Floyd, un afro-américain tué étouffé sous le genou d'un policier en mai 2020. Impunité, c'est finalement le seul mot qui me vient aujourd'hui, Angelina, car s'insurger d'un meurtre en public glaçant, c'est une chose, mais applaudir un homme dont le fond de commerce n'était que la haine de l'autre, c'en est une autre. Et je finirai sur la citation du pasteur Howard John Wesley, qui est « La manière dont vous mourrez ne rattrape pas la manière dont vous avez vécu ».
Merci Aletra Belsi pour ce tout premier billet d'humeur de la saison des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Good Morning Tour, c'est déjà fini. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Mathis, Clara, Lénie, Charline, Rachel, Jules, Agathe, Lucie, Andrés, Ludivine, Alia et bien sûr Gabriel à la technique. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même fréquence, 99.5 FM. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous.